Laurence avec les Colossiens. Et moi, je vais me focaliser sur les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et la semaine prochaine, il y aura la suite. Voilà, donc si vous n'avez pas suivi les premières prédications sur cette série, sachez qu'ils sont disponibles sur le site internet de l'Église. Voilà, donc ça vous permet de raccrocher un peu les wagons. Et en même temps, ces quatre thèmes ont été choisis en lien avec le livret de lecture annuel de la Bible que l'Église a choisi de suivre. Et donc, ça permet d'avancer tous ensemble. Hein, en suivant ce petit livre, nous pouvons lire la Bible tous ensemble sur les mêmes textes et donc nous encourager mutuellement. Alors, l'Épître aux Romains, eh bien, figurez-vous que l'Empire romain, c'était vers l'an 0 de notre ère, du même temps que Jésus. Et Paul est né à peu près à cette même époque. On n'a pas l'année exacte, mais il avait plus ou moins le même âge que Jésus. Et l'Empire romain s'étendait, hein, vous avez sans doute appris ça à l'école, au collège. Eh bien, l'Empire romain s'étendait sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et à l'époque, on disait, c'est le monde entier, parce qu'on n'avait pas encore découvert l'Amérique. Et la Chine, le Japon, tout ça, c'était très éloigné. Donc le monde, avec un grand M, c'était la Méditerranée. Paul, lui, a une double culture. D'ailleurs, avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Il est hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, et il a reçu une éducation juive au pied du meilleur théologien de l'époque, Gamaliel. Il a ensuite rejoint le parti des pharisiens. Voilà, un vrai juif, bien, bien intégriste. Et par son père, par contre, il a reçu la citoyenneté romaine, ce qui lui donnait un certain nombre de privilèges. Et dans la ville où il était originaire, la ville de Tarse, qui était une très grande ville de l'Empire romain à l'époque, il a appris la philosophie grecque et en particulier l'art de raisonner. Les philosophes grecs étaient habitués donc à raisonner. Il a mal commencé sa vie spirituelle, puisque en tant que juif intégriste, il a d'abord persécuté et mis à mort les chrétiens. Vous avez lu dans les Actes, hein, il a validé la lapidation de Étienne, un des premiers diacres de l'église de Jérusalem. Il était là quand on l'a mis à mort. Mais Jésus ne l'a pas laissé dans cet intégrisme. Il l'a appelé sur le fameux chemin de Damas. C'est aussi dans les Actes, vous pouvez lire ces passages pour vous remémorer tous ces textes. Et donc, sur le chemin de Damas, Jésus l'appelle en faisant briller une grande lumière et en envoyant une grande voix qui lui dit: « Mais Saul, Saul! » Et finalement, Saul se convertit, accepte de suivre Jésus, et cela l'a complètement transformé. Cela l'a transformé lui, mais a également transformé sa connaissance de Dieu. Alors, Paul a commencé à écrire des épîtres. Alors, dans la Bible que l'on connaît, elles ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, peu importe. Et dans l'Épître aux Romains, qui est la première juste après le livre des Actes, il développe un raisonnement logique. Vous avez entendu, je vous ai fait comprendre que Paul a eu cette éducation grecque, donc il raisonne. Et souvent, il le dit d'ailleurs, hein, dans ses épîtres, il dit: je vous parle à la manière des hommes, je raisonne comme un homme, pour convaincre ses interlocuteurs, aussi bien juifs que païens ou grecs, de ce qu'il veut leur faire comprendre. Et donc, le raisonnement de Paul, c'est plus ou moins sept points principaux. Voilà. Le péché est arrivé par un seul homme, Adam, bon, et par Ève, sa femme, n'est-ce pas? Tous les humains ont péché. Ça, c'est la conséquence. La conséquence de ce péché, selon la loi, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Par un seul, tous sont morts. Donc par Adam, le péché est entré dans l'homme et donc tous les hommes sont morts. Or, Christ, le Fils de Dieu, est sans péché. Néanmoins, il a été condamné à mort. Ça, c'est injuste. Qu'un juste comme Jésus soit condamné à mort. Mais justement, c'est parce qu'il était juste et qu'il a été condamné à mort à notre place et qu'il est ressuscité que nous pouvons tous dire par la foi, nous sommes morts au péché avec Christ. Si nous sommes morts au péché, c'est que le péché ne peut plus nous condamner. La loi ne peut plus rien contre nous, car nous sommes déjà morts en Christ. Et donc nous sommes sauvés par la foi seule, par grâce. Voyez donc, ça c'est le raisonnement que l'apôtre Paul délivre en plusieurs points et qu'il reprend dans ses différentes épîtres. C'est par sa culture grecque qu'il a appris à raisonner. Et bien sûr, nous sommes plutôt de culture française et donc nous raisonnons un peu plus comme Descartes. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul utilise le raisonnement et il nous encourage à faire de même, puisque Dieu nous a qualifiés d'une intelligence. Mais, je vous le répéterai à la fin, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents et que nous connaissons Dieu que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous avons la foi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la connaissance qui nous sauve, mais c'est la foi. Alors ce matin, je ne résumerai pas les 7 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, ce serait fastidieux. Je vous en ai donné le raisonnement de Paul, mais de façon très succincte, mais je ne pourrais pas faire un résumé correct, car les Épîtres de Paul sont tellement riches en enseignements. Alors je vous propose un extrait, voilà, qui est affiché dans Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Et vous pouvez suivre dans vos Bibles ou à l'écran. Voilà ce que Paul nous dit. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. La parole de Dieu est riche et ce texte en est la preuve. Il se dégage trois idées fortes dans ce texte. 1. L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Amen. 2. Nous avons le salut par la mort en Jésus. Ça, c'est par la foi que nous le comprenons. Mais surtout, 3. Le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Si nous comprenons l'évangile seulement dans notre tête, par notre intelligence et notre raisonnement, ça ne sert à rien. Il faut que le Saint-Esprit ouvre notre cœur pour que ça pénètre. On y reviendra. Alors commençons par parler un petit peu de l'amour de Dieu. Dieu le Père nous aime. On l'a lu au verset 5. Et il a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu le Père montre son amour pour nous par la mort de Jésus, le Fils. Dans ce texte de l'apôtre Paul, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres de ses textes, et même dans tous les chants que nous avons chantés ce matin, ça ressortait de façon vraiment vivante. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette articulation de Dieu. Certains nous accusent d'être polythéistes parce que nous osons dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais non, Dieu est un, comme la Bible nous l'enseigne, mais il y a trois personnes en Dieu. Le Père qui nous aime, le Fils qui par obéissance est mort à notre place et le Saint-Esprit qui ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre cela. Souvent, nous voyons plutôt Jésus qui nous aime, un peu comme un pote qui nous aime avec ce fameux slogan des années 60, « Jesus love ». Et nous craignons un peu plus Dieu le Père, lointain, sévère, et nous préférons parfois même ne pas l'invoquer parce qu'on ne sait jamais. Bref, nous avons un peu la trouille. Et généralement, à moins d'être vraiment un chrétien affermi, mais généralement, bof, le Saint-Esprit, on n'y prend pas trop garde, on ne prend pas le temps d'écouter sa voix. Et pourtant, il est à côté de nous, tous les jours, comme il l'a promis. Alors, ces quelques versets nous présentent Dieu sous cet autre aspect. Dieu le Père nous aime. Nous n'avons rien à craindre de lui. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples du Père qui nous aime, à commencer par la Genèse. Vous vous souvenez, Adam et Ève, déjà avant de tomber dans le péché, mais Dieu venait à leur rencontre tous les soirs, parce qu'il aimait ça, discuter avec eux. Et lorsqu'ils ont commis le péché, ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Dieu, bien sûr qu'il est omniscient, il sait tout. Il savait qu'ils venaient de commettre la désobéissance. Néanmoins, Dieu les aime et il est allé à leur rencontre. Bien que eux se soient cachés, Dieu s'est approché d'eux comme il le fait tous les jours avec nous. Dieu s'est approché d'eux. Ne les trouvant pas à l'endroit habituel, il les appelle. Adam, Ève, où êtes-vous ? Donc, Dieu le Père nous aime même si nous commettons des désobéissances, du péché. C'est dans son cœur, c'est dans son ADN. On ne peut pas séparer ça de Dieu, c'est impossible. Alors heureusement, cet amour transparaît aussi en Jésus le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Mais à la base, c'est rempli, hein, l'amour c'est rempli dans le cœur de Dieu. C'est, voilà, on peut pas dissocier Dieu et l'amour. Alors, quand on parle de Dieu et de Trinité, hein, Dieu le Père nous aime, quel est le rôle du Fils ? Mais le rôle du Fils, c'est tout simplement d'obéir à son Père et d'accepter de mourir à notre place sur la croix. C'est pas le Père qui est mort sur la croix, c'est le Fils. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir notre cœur pour le comprendre. Alors, retenez ceci dans cette première partie. Oui, lorsque nous commettons une faute, nous avons tendance à vouloir nous éloigner de Dieu le Père, mais n'oublions pas, lui nous aime. Donc, revenons à lui. Revenons à lui pour recevoir son amour qu'il nous donne par le Saint-Esprit qui ouvre notre cœur et qui nous permet d'accepter la mort de Jésus à notre place. Et oui, dans cette première partie, j'ai déjà répété beaucoup de fois la même chose. Mais c'est parce que c'est dans le texte biblique. On ne peut pas ne pas le voir. Et donc, je vais vous montrer ça de façon plus claire encore. Vous voyez, tout ce qui est souligné en vert reprend un peu la même idée. Déclaré juste, en paix avec Dieu, au moyen de la foi, le don gratuit de Dieu, l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, déclaré juste encore une fois, grâce à son sacrifice, sauvé de lui, de la colère à venir, réconcilié avec lui par la mort de son Fils. Nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés par sa vie, nous avons obtenu la réconciliation. Vous voyez, plus ou moins une dizaine de fois dans ces quelques versets, cette idée qui revient et qui revient encore. Quand la Bible répète quelque chose, ce n'est pas pour rien. Au contraire, c'est parce que c'est très important. Donc ces répétitions, sans compter tous les autres textes de l'apôtre Paul qui reprennent ces mêmes répétitions, eh bien, ces répétitions montrent combien il est important pour Dieu, Dieu le Père, que nous acceptions son amour. Son amour qu'il verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui ouvre notre cœur, et ainsi pour être sauvés par la foi en la mort de Jésus. Et c'est vrai que le salut par la foi, c'est une idée tellement contre nature, contre notre nature humaine. Naturellement, nous les humains, hommes ou femmes, hein, je crois que là c'est pareil, mais humains, nous cherchons des religions et nous créons des religions qui nous donnent la possibilité de nous racheter nous-mêmes. Nous voulons faire des bonnes actions. Nous voulons être fiers de dire « voilà ce que j'ai fait ». Et pour satisfaire au Dieu que nous nous sommes créés, eh bien, nous faisons des sacrifices. Que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, l'islam, même le catholicisme et même le protestantisme. Dans toutes ces religions, il y a des règles qu'on s'impose et qui nous rendent fiers d'avoir pu nous approcher de Dieu. Mais c'est peine perdue. Aucune règle ne peut réussir à nous rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui se rapproche de nous. Et cela, nous n'avons qu'à l'accepter. Martin Luther, le grand réformateur du protestant du XVIe siècle, vous avez sans doute entendu parler, eh bien, il a eu un choc terrible lorsqu'il a lu pour la première fois l'Épître aux Romains et les autres textes de Paul dans le Nouveau Testament. Pourtant, il était prêtre catholique. C'était au XVIe siècle. Il aurait donc dû connaître la Bible. Mais en ce temps-là, même les prêtres ne lisaient pas la Bible. Incroyable. Et par contre, en ce temps-là, l'Église catholique vendait des indulgences. Il fallait payer pour avoir des parts dans le paradis. Les fidèles pouvaient acheter un coin de paradis. Et donc, toute leur vie, les fidèles catholiques devaient se démener pour gagner leur salut, par leurs propres efforts, en donnant de l'argent, et pour éviter d'être envoyés en enfer. Quitte à passer par le purgatoire, si jamais ils n'avaient pas fait assez de bonnes choses, ils avaient un droit de rachat, un deuxième tirage. Pour ceux qui font des jeux vidéo, c'est une vie supplémentaire. Mais en fait, même s'ils payaient pour qu'on dise des messes pour le salut de leurs âmes, toutes ces pratiques religieuses qui ont été inventées par des hommes, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, dans la Bible, donc toutes ces pratiques, c'est par orgueil que les hommes les ont inventées pour se sauver eux-mêmes. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est ne vous laissez pas influencer par ces mensonges. Des mensonges religieux, quelle que soit la religion. Ce sont des mensonges religieux. Alors, pour vous en convaincre, je vous invite à lire vous-même la Bible. Dans la Bible, vous ne trouverez aucune de ces recommandations religieuses pour faire par soi-même, pour obtenir par soi-même son salut. Pour Martin Luther, ça a été un choc de comprendre que le salut est le don gratuit de Dieu, donné par la grâce seule, par la foi. Et pour ceux qui connaissent un peu son histoire, Martin Luther a écrit 95 thèses. Ça veut dire, dans 95 phrases, il a écrit et répété encore que le salut, c'est par la foi. Les indulgences, ça ne sert à rien. C'est le don gratuit de Dieu. Il l'a répété 95 fois. Voilà. Donc, si vous voulez être convaincu, lisez les 95 thèses de Martin Luther. Mais voilà, c'est là, c'est des répétitions encore et encore. Tout simplement pour dire que oui, c'est par la foi seule. Et alors Luther, il a créé ce fameux slogan en latin, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Alors, je vais vous faire la traduction, ne vous inquiétez pas. Donc, la grâce seule, la foi seule, Christ seul, l'écriture seule et à la gloire de Dieu seul. Voilà, ça c'est le slogan de Martin Luther au XVIe siècle. Mais il est toujours d'actualité. Alors, pourquoi est-ce que l'humain a besoin de tant de répétitions? C'est parce que nous sommes orgueilleux. Je le disais tout à l'heure, nous sommes contre le salut par grâce. Nous sommes contre le salut par la foi seule. Nous voulons le gagner par nos propres forces. Dans le texte, le mot fierté revient 3 fois. Mais dans ce texte, ce n'est pas la fierté de l'homme qui se rend fier par son orgueil d'être capable d'obtenir son salut par lui-même. Ce n'est pas de cette fierté-là dont il s'agit. Au contraire, c'est la fierté que nous plaçons en Dieu, qui a fait tout le travail à notre place. C'est la fierté basée sur l'espérance que nous avons en Dieu, hein, d'avoir part à sa gloire, ou la fierté en notre Dieu qui nous réconcilie avec lui par le sacrifice de Jésus, ou la fierté de savoir que le Saint-Esprit lui-même ouvre nos cœurs pour recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas une fierté en nos propres compétences ou capacités, mais c'est la fierté en Dieu qui peut tout et qui peut nous sauver. Nous sommes fiers de Dieu, Paul l'a dit dans d'autres passages, car Dieu utilise nos faiblesses. Alors que nous sommes incapables, mais il utilise nos faiblesses. Lorsque nous sommes au plus bas dans la détresse, ça arrive parfois. Je le souhaite à personne, mais chacun de nous, un jour ou l'autre, nous passons par des temps de détresse. Eh bien, ce sont dans ces moments-là que nous devons être fiers de notre Dieu qui est capable de venir nous rejoindre lorsque nous sommes dans la détresse pour nous en sortir. C'est cette fierté-là. Ce n'est pas la fierté de dire « j'étais dans la détresse et je me suis débrouillé tout seul ». Ça ne marche pas avec Dieu. Donc, voyez bien cette fierté que nous avons en Dieu. Et même si nous pensons que nous sommes au plus bas, ce n'est pas parce que nous sommes moins bons que les autres que nous passons par des temps de détresse, comprenez bien. Les temps de détresse arrivent à tout chrétien. Un jour ou l'autre, ça arrive. Mais, sachez-le, lorsque vous êtes au plus bas dans cette détresse, c'est à ce moment-là que vous pouvez être fier de Dieu, car lui va vous sortir de cette détresse. Et effectivement, nous ne sommes pas justes grâce à nos pratiques religieuses. Il y a une expression que nous avons lue qui est très pertinente. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes déclarés justes. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Moi-même, honnêtement, je me regarde, je sais que je ne suis pas juste. Je connais ma vie, je sais qu'elle est remplie de péchés. Mais Dieu, comme il me voit à travers le sang de Jésus, il me déclare juste. C'est lui qui me voit juste, n'est-ce pas? Moi, je suis, Dieu est d'un côté, avec le sang de Jésus qui fait comme une couverture. Moi, je sais que là où je suis, je me connais, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais Dieu, lui, à travers le sang de Jésus, il me voit juste. C'est ça qui est important. Donc Dieu nous déclare juste. Vous connaissez ce verset dans l'Apocalypse, un verset assez connu, hein, chapitre 3, verset 20, qui dit, Jésus parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. On en a parlé, hein, Dieu le Père qui est amour, Dieu le Fils qui a accepté de mourir à notre place et Dieu le Saint-Esprit qui vient en nous ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour. Le Saint-Esprit, on prêche souvent sur le Saint-Esprit pendant le week-end de la Pentecôte, une fois tous les 52 dimanches, mais c'est peut-être pas assez parce que s'il y a trois, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut-être qu'il faudrait prêcher sur le Saint-Esprit au moins un dimanche sur trois. Bon, enfin, ça, c'est juste une suggestion. Toujours est-il que lorsqu'on comprend bien le rôle du Saint-Esprit, Il ne nous force pas. Il est à côté de nous, mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur. Comme je viens de le lire dans ce texte de l'Apocalypse. Il frappe. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ouvrons? Si nous ouvrons, alors oui, l'amour de Dieu peut nous inonder. Mais si nous restons fiers de notre propre capacité, de notre propre force, alors nous allons dire au Saint-Esprit non. Je suis capable de me débrouiller seul, donc non, je ne veux pas le Saint-Esprit. Et Jésus ne peut pas faire sa demeure en nous. C'est donc à moi, dans ma faiblesse, de lâcher prise, de laisser Dieu, le Saint-Esprit, ouvrir mon cœur pour que Jésus puisse entrer et me remplir de l'amour de Dieu. Dieu le Père nous appelle, nous entendons sa voix, mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est à chacun de prendre sa décision. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens, que ceci, que cela, non. C'est à moi, personnellement, d'accepter d'être interpellé par le Père et de laisser le Saint-Esprit ouvrir mon cœur. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, a cette puissance pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est un texte qu'on lit dans Jean chapitre 16. Alors, pour conclure, retenons ceci. Humainement, la prédication de l'Évangile est une folie que nous ne pouvons pas accepter. Paul, dans d'autres écrits, il le dit. Croire en la mort de Jésus sur la croix, c'est une folie pour les hommes. Alors prions Dieu, le Saint-Esprit, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir l'amour du Père, l'amour qu'il veut nous donner, et pour recevoir le salut par la mort de Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai un peu passé cette diapo, c'est pas grave, c'est pour rappeler un petit peu tous les mots qui définissent Dieu, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est assez riche dans ce texte. Et pour finir, on voit que les deux versets centraux que j'ai mis en gras sont un peu encadrés par toutes ces expressions de Dieu sur le salut par la foi. Et je vais vous les laisser en conclusion, les versets 5 et 6. Et lorsqu'il y a beaucoup de répétitions dans la Bible, ce n'est pas pour nous embrouiller l'esprit ou pour nous fatiguer, mais c'est pour nous aider, nous lecteurs, à concentrer notre attention sur le centre, sur ce qui est important. Donc les répétitions qui sont autour, dans les premiers versets et les derniers versets, attirent notre attention sur les versets 5 et 6 qui sont au milieu. En français moderne, ce n'est pas des figures de style qu'on utilise, mais les Grecs et dans la tradition juive, on utilisait beaucoup ces méthodes de répétition pour mettre l'accent sur la partie centrale du texte. Et donc les versets 5 et 6 que je vous lis pour finir. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. Que cette parole soit vôtre. Amen.